Alors qu'il mettait pied à terre dans la cour de la forteresse de la lumière, puis confiait les rênes de sa monture à un garçon d'écurie, Pedron Niall rayonnait de satisfaction. Morgaz était ferré désormais, et il n'avait pas eu besoin de mentir une seule fois, car il détestait le mensonge. Bien sûr, il avait interprété les faits, mais il était sûr d'avoir raison. Randall Thor était un faux dragon et une authentique marionnette de la tour. Décidément, le monde regorgeait de gens incapables de réfléchir. L'ultime bataille ne serait pas un affrontement titanesque entre le ténébreux et un dragon réincarné, un seul homme. Depuis très longtemps, le Créateur avait abandonné l'humanité à son destin. Quand viendrait Tarmon Gaidon, les choses se passeraient comme lors des guerres des Trollocs, plus de 2000 ans plus tôt. Alors, des hordes de Trollocs et d'autres créatures des ténèbres avaient déferlé de la flétrissure, dévastant les terres frontalières et manquant noyer l'humanité dans un océan de sang. Niall refusait que les humains affrontent de nouveau cette épreuve en étant divisés et mal préparés. Alors qu'il remontait les couloirs au mur de pierre de la forteresse, en direction de sa salle d'audience privée, des dizaines de fils s'inclinèrent sur son passage. Dans l'antichambre, Balwer, son secrétaire au visage las, se leva d'un bond et déclama la liste de tous les documents attendant d'être signés par le seigneur général. Mais l'attention de Niall se focalisa sur l'homme de haute taille qui, à son entrée, s'était levé d'un des fauteuils réservés aux visiteurs. Sur sa cape, on distinguait un bâton de berger écarlate derrière le soleil rougeoyant, et trois nœuds d'or au-dessous indiquaient son grade. Jaishim Karidin, inquisiteur de la main de la lumière, semblait toujours aussi dur qu'avant, mais avec davantage d'argent sur les tempes que lors de leur précédente rencontre. Son regard sombre trahissait un rien d'inquiétude, et ce n'était pas étonnant. Ses deux dernières missions s'étaient terminées par un désastre, rien de très encourageant pour un homme qui aspirait à devenir un jour le haut inquisiteur, voire le seigneur général, tout simplement. Niall lança sa cape à Valouer et fit signe à Karidin de le suivre dans la salle d'audience. À part les étendards pris à l'ennemi qui décoraient les murs lambrissés, et le soleil incrusté dans le sol au prix d'assez d'or pour stupéfier n'importe quel visiteur, la pièce, strictement fonctionnelle, ressemblait au bureau d'un soldat, le reflet fidèle de ce qu'était son occupant. Niall s'assit dans son fauteuil à haut dossier dépourvu d'ornement. Les deux cheminées, placées face à face, étaient éteintes à une période de l'année où de grandes flammes auraient dû y rugir. Une preuve de plus que l'ultime bataille approchait. Karidin s'inclina, puis s'agenouilla sur le grand soleil poli par des siècles de semelles et de genoux.
« T'es-tu demandé pourquoi je t'ai convoqué, Karidin ?»
Après la plaine d'Almoth, Falm et Tanchico, l'inquisiteur n'aurait pas eu tort de craindre que ce soit pour l'arrêter. Mais s'il soupçonnait une telle éventualité, il n'en laissait rien paraître. Comme toujours, il ne pouvait pas s'empêcher de montrer qu'il en savait plus long que n'importe qui sur absolument tout. Trop long, en réalité.
« Seigneur général, les Aes Sedai en Altara, voilà à quoi j'ai pensé. Une chance d'éliminer la moitié de ces maudites sorcières de Tarvalon, presque sans bouger de chez nous. »
Une exagération. À Salidar, il y avait au maximum un tiers des sœurs.
« As-tu émis cette hypothèse à voix haute, devant tes amis ?»
Niall doutait que le confesseur, un nom que les inquisiteurs détestaient, ait des amis. Mais il devait bien avoir des compagnons de libation, voire de beuverie ces derniers temps. Cela dit, cet homme avait des compétences qui pouvaient se révéler utiles.
« Non, seigneur général, je suis plus avisé que ça. »«
Très bien, parce que tu n'iras pas à Salidar, et les fils de la lumière non plus. »
Niall n'aurait pu jurer qu'il avait vu du soulagement s'afficher un instant sur les traits du confesseur. Mais si c'était le cas, ça ne correspondait pas au personnage. Jusque-là, Karidin n'avait jamais manqué de courage, et sa réponse alla dans ce sens.
« Mais ces sœurs sont à notre merci, attendant d'être taillées en pièces. Ça prouve que les rumeurs n'en sont pas. La tour est bel et bien divisée. Nous pouvons détruire ces sorcières-là sans que les autres lèvent le petit doigt. La tour pourrait en être assez affaiblie pour s'écrouler.
« Tu le crois vraiment ?»
demanda Niall. Il croisa les mains sur son giron et prit une grande inspiration. Les confesseurs, oui, la main de la lumière abominait ce nom, mais ils l'utilisaient quand même. Ne voyaient que ce qu'ils avaient devant le nez, et encore.
« La tour elle-même peut difficilement soutenir ce faux dragon nommé Altor. Et s'il finit par tourner comme Loghain ? En revanche, un groupe de sœurs dissidentes. Ces Aes Sedai-là pourraient se rallier à Altor, sans que la tour blanche risque de se salir les mains. »
Niall était certain de son interprétation. Si Caridine avait eu raison, il y aurait effectivement eu moyen de tirer parti d'une division pour miner encore un peu plus le pouvoir de la tour. Mais cette dissidence était un leurre.
Ce qui compte, c'est ce que voit le monde. Je ne lui donnerai pas à voir une simple lutte d'influence entre les fils de la lumière et la tour blanche.
En tout cas, pas tant que le monde ne verrait pas la tour blanche pour ce qu'elle était, à savoir un nid puant de suppôts des ténèbres manipulant des forces dont l'humanité, en principe, aurait dû se tenir éloignée. En particulier de celle qui avait provoqué la dislocation du monde.
Ce combat, c'est le monde contre le faux dragon Altar.
Si je ne vais pas en Altara, Seigneur Général, quels sont mes ordres?
Nial baissa la tête en soupirant. Soudain, il se sentait épuisé, comme si le poids des ans l'écrasait.
Tu iras en Altara, Caridine.
Nial connaissait le nom et le visage de Rand Altor depuis la prétendue invasion venue de l'autre côté de l'océan, à Falm. En fait, un peu après, ça ne changeait rien. Une machination des Aes Sedai qui avait coûté 1 000 000 d'hommes aux Fils de la Lumière, inaugurant le chaos qui régnait désormais au Tarabon et en Arad-Doman, deux pays infestés de fidèles du dragon. Sachant qui était Altor, le seigneur général avait cru qu'il pourrait lui servir d'aiguillon pour forcer les nations à s'unir. Une fois fédérées, sous sa direction, elles auraient pu en finir avec Altor, puis se préparer à affronter les hordes de Trolloc. Afin de signaler le danger, il avait envoyé des émissaires aux dirigeants de tous les pays. Mais Altor s'était déplacé plus vite qu'il l'aurait cru possible, et il n'en revenait toujours pas. Alors que Nial avait l'intention de laisser ce lion enragé arpenter les rues assez longtemps pour flanquer la trouille à tout le monde, cet animal était devenu un géant qui courait à la vitesse de l'éclair. Mais tout n'était pas perdu. Il convenait de ne pas l'oublier. Quelques 1000 ans plus tôt, Geir Amalassan s'était autoproclamé dragon réincarné. Un imposteur, certes, mais capable de canaliser. En son temps, Amalassan avait conquis plus de nations qu'Altor. Puis un jeune roi nommé Arthur Eldefaucon s'était opposé à lui, commençant à se forger son propre empire. Nial ne se prenait pas pour un nouvel Arthur, mais le monde devrait faire avec lui. En tout cas, il n'abandonnerait pas tant qu'il lui resterait un souffle de vie. Et il avait déjà pris des mesures contre Altor et sa puissance grandissante. En sus des émissaires, il avait envoyé des hommes au Tarabon et en Arad-Doman. Des agents avisés, capables de souffler dans les bonnes oreilles que tous les problèmes pouvaient être imputés aux fidèles du dragon, des fous et des suppôts qui soutenaient Altor. Et à la Tour Blanche, bien entendu. Venu du Tarabon, une multitude de rumeurs laissait entendre que les Aes Sedai étaient impliqués dans les combats. Le genre de mensonge susceptible de préparer les gens à entendre la vérité. Désormais, il était temps de passer à la suite du plan, afin de convaincre les indécis de choisir un camp. Le temps. Nial en avait si peu. Pourtant, il ne put s'empêcher de sourire. Certains de ses ennemis, morts depuis longtemps, avaient coutume de dire « Quand Nial sourit, c'est qu'il est prêt à vous sauter à la gorge. »
« L'Altara et le Murandi, »
dit-il à Caridine,
« sont sur le point de subir une infestation de fidèles du dragon. »
Avec sa voûte de plâtre sculptée, ses riches tapis sur un sol de dalles blanches et ses murs lambrissés également sculptés, la salle ressemblait à un salon de palais. Pourtant, ce lieu était très éloigné de tous les palais du monde. En fait, il était loin de tous les lieux qui existaient, en tout cas selon la pauvre compréhension des mortels. Alors qu'elle tournait autour d'une table incrustée de lapis-lazuli, la robe de soie ocre de Messa Anna bruissait agréablement. Pour l'heure, la jeune femme passait le temps en construisant une tour avec des dominos d'ivoire, chaque niveau étant plus grand que le précédent. Elle se rengorgeait de réussir cet exploit grâce à sa connaissance des lois de la physique, sans utiliser un filament de pouvoir. Elle en était à 9 niveaux pour le moment. À dire vrai, plus qu'à se distraire, elle cherchait à éviter de faire la conversation à sa compagne. Assise dans un fauteuil tendu de velours rouge, ses mirages brodaient, ses longs doigts fins alignant les poings pour composer une mosaïque complexe de motifs floraux. Messa Anna s'étonnait toujours que cette femme aime une activité si triviale. Sur le velours rouge, sa robe noire faisait un contraste frappant. Demandred lui-même n'osait pas lui lancer à la tête qu'elle portait si souvent du noir pour se démarquer de l'Anfear, toujours de blanc vêtu. Pour la 1000e fois, Messa Anna tenta de comprendre pourquoi elle se sentait si mal à l'aise face à cette femme. Consciente de ses forces et de ses faiblesses, dans le pouvoir et dans d'autres domaines, elle était l'égale de ses mirages dans bien des domaines. Et là où ce n'était pas le cas, elle avait, pour compenser, des points forts correspondant à certains points faibles de sa rivale. Mais le problème n'était pas là. Ses mirages prenaient plaisir à se montrer cruel, pourtant, là encore, ça ne pouvait pas être ça. Mais Saana savait faire mal aux gens quand il le fallait, et elle se fichait de ceux que ses mirages torturaient. Pourtant, il devait bien y avoir une raison à son trouble, mais impossible de la trouver. Agacée, elle posa un nouveau domino. La tour s'écroula, des petits rectangles d'ivoire tombant sur le sol. Avec un claquement de langue, Messaana se détourna de la table et croisa les bras.
Où est Demandred ? Voilà 17 jours qu'il est parti pour le mont Chagalgoul. Mais il a attendu jusqu'à maintenant pour nous informer qu'il a un message. Et voilà qu'il ne se montre toujours pas.
Durant ce laps de temps, Messaana était allée 2 fois à la fosse de la perdition, marchant dans le tunnel où les horribles crocs de pierre lui frôlaient le crâne. Et qu'avait-elle trouvé ? Rien. À part un étrange myrdral beaucoup trop grand et muet comme une tombe. La brèche était toujours là, certes, mais le grand seigneur ne lui avait pas répondu. En ces 2 occasions, elle n'était pas restée longtemps. Alors qu'elle se croyait au-delà de la peur, au moins de celle qui pouvait éveiller le regard d'un demi-humain, le lourd silence et l'intensité malveillante du blafard l'avaient incité à repartir d'un pas vif. À la course même, si elle ne s'était pas contrôlée. Si canalisée en ce lieu n'avait pas été un suicide, elle aurait abattu le myrdral ou aurait voyagé pour s'éloigner plus vite de la fosse. Ses mirages leva les yeux de son ouvrage, des yeux noirs sur un visage sans rides au teint sombre, posa à côté d'elle sa broderie et se leva gracieusement.
« Il viendra quand il viendra, »
dit-elle calmement. Elle ne s'énervait jamais, ni ne se départait de sa grâce.
« Si tu ne veux pas attendre, va-t'en. »
D'instinct, Messaana se dressa sur la pointe des pieds, mais elle dut quand même lever la tête. À cause de ses parfaites proportions, il fallait se trouver face à ses mirages, en d'autres termes être toisé par elle, pour s'apercevoir qu'elle était plus grande que la majorité des hommes.
« M'en aller, c'est ce que je vais faire, et il pourra... »
Il n'y eut aucun avertissement. Pour une femme, il n'y en avait jamais quand un homme canalisait le pouvoir. Une ligne verticale brillante apparut dans les airs, puis s'élargit tandis que le portail pivotait et s'ouvrait assez longtemps pour laisser passer Demandred, qui salua chaque femme d'une esquisse de révérence. Tout d'anthracite vêtu, il arborait de la dentelle blanche au col. Pour lui, s'adapter à la mode et au tissu de cet âge ne présentait aucune difficulté. Son visage au nez aquilin était raisonnablement beau, mais pas assez pour faire battre la chamade au cœur de toutes les femmes qui le croisaient. En un sens, pas assez, et presque, aurait pu résumer toute l'histoire de sa vie. Par exemple, il avait eu la malchance de naître un jour après Loustérine Télamon, le futur dragon. Ensuite, Barid Belmédar, le nom qu'il portait alors, avait passé des années à presque égaler les exploits de Loustérine, mais pas assez, cependant, pour se gagner une gloire équivalente à la sienne. Cela dit, sans Loustérine, il aurait été l'homme le plus acclamé de son âge. S'il avait été choisi pour commander, à la place d'un homme qu'il considérait comme son inférieur, intellectuellement parlant, un imbécile trop timoré mais à maintes reprises servi par une chance incroyable, aurait-il été ici aujourd'hui ? Des spéculations qui ne menaient à rien, même si ce n'était pas la première fois que Messaana s'y abandonnait. Au fond, une seule chose comptait. Demandred méprisait le dragon. Et maintenant que ce dragon s'était réincarné, il avait transféré sa haine sur le nouvel avatar de Loustérine.
« Pourquoi ?»
Demandred leva une main.
« Attendons que tout le monde soit là, Messaana. Ainsi, je n'aurai pas besoin de me répéter. »
Messaana sentit le premier filament de Saïdar un peu avant qu'un autre portail s'ouvre, afin de laisser passer Grindal, pour une fois sans son habituelle suite de serviteurs à moitié nus. Comme Demandred, elle fit aussitôt disparaître l'ouverture. Les cheveux blonds tirant sur le roux, bien en chair sans être trop enveloppée, elle avait réussi à dénicher du straight, un tissu à l'origine blanc mais qui changeait de couleur selon les humeurs de qui le portait, pour se faire confectionner une robe au col montant. Apparemment pudique, donc, mais présentement transparente, ce qui reflétait bien l'état d'esprit de sa propriétaire. Parfois, Messaana se demandait si Grindal s'intéressait à autre chose qu'au plaisir des sens.
« Je me demandais si vous seriez là. »
lança la nouvelle venue.
« Vous êtes si secrets tous les trois. »
Elle eut un rire un peu bêta, mais la prendre pour une imbécile aurait été une erreur grossière. Presque tous ceux qui l'avaient commise pourrissaient sous terre, victimes de la femme qu'ils avaient sous-estimée.
« Samael viendra-t-il ? »
s'enquit Demandred. Grindal eut un vague geste de la main.
« Il ne te fait plus confiance. J'ai peur qu'il ne se fie plus à personne. »
Le straight s'assombrit, devenant une brume opaque.
Il s'occupe de ses troupes en Iliane, grognant sans cesse parce qu'il n'a pas de lance-choc pour les équiper. Le reste de son temps, Il cherche un angréal ou un saangréal utilisable. Un artefact d'une puissance acceptable, bien entendu.
Tous les regards se rivèrent sur Messa Anna, qui prit une profonde inspiration. Ils auraient tous donné n'importe quoi, enfin presque, pour un angréal ou un saangréal de qualité. Si chacun d'entre eux était bien plus fort que la meilleure des gamines mal formées qui osaient se faire appeler des Aes Sedai, ces sales gosses, en se liant en nombre suffisant, pouvaient leur infliger une écrasante défaite. N'était que ces idiotes ignoraient comment s'y prendre, et qu'elles n'en avaient de toute façon pas les moyens. Pour aller au-delà de 13 dans un lien, il fallait au moins un homme, et plus que ça pour dépasser 27. En vérité, ces fillettes, aux yeux de Messa Anna, qui avait vécu plus de 300 ans sans compter son séjour forcé dans la brèche et qui abordait à peine l'âge moyen, même la plus vieille était un bébé, ne représentaient aucun danger. Et ça ne diminuait en rien le désir brûlant chez les quatre élus de posséder un angréal, ou mieux encore, le plus puissant saangréal du monde. Avec ces artefacts, vestiges de leur époque désormais révolue, ils pourraient canaliser des quantités de pouvoir suffisantes pour les carboniser, en l'absence de focale. Bref, chacun d'eux aurait donné beaucoup pour s'approprier un de ces trésors. Mais pas tout, sauf en cas d'absolue nécessité. Cela dit, cette limite n'empêchait pas le désir de possession de brûler en eux. Par habitude, Messa Anna adopta un ton professoral.
Désormais, la Tour Blanche a placé des gardes et des protections à l'extérieur et à l'intérieur de ces salles au trésor. En plus, les Aes Sedai, chaque jour, recomptent 4 fois leurs artefacts. Dans la pierre de Théar, la grande salle est également protégée, avec un piège vicieux qui m'aurait coincé si j'avais tenté de le franchir ou de le dénouer. Je doute que ce soit faisable, sauf par les personnes qui l'ont tissé. En l'état, c'est une chose trappe pour toute femme capable de canaliser.
D'après ce qu'on dit, à Théar, on ne trouve qu'un fatras de vieux trucs inutilisables,
intervint Demandred.
Les Théariens ont thésaurisé tout ce qui pouvait avoir de près ou de loin un rapport avec le pouvoir.
Mais Saana aurait juré que Demandred ne se référait pas seulement à des on-dit. Bien sûr, il devait y avoir un piège destiné aux hommes. Sinon, il aurait eu depuis longtemps son saangréal et se serait lancé à l'attaque de Randall Thor.
Il y a sans doute des artefacts à Kaerien et à Ruidéan. Mais à supposer qu'on ne tombe pas sur ce fichu Altor, ces deux cités grouillent de femmes en mesure de canaliser le pouvoir.
Des gamines ignorantes,
siffla Grindal.
Si une fille de cuisine te plante un couteau dans le dos,
dit froidement Semirage,
penses-tu être moins morte que si tu succombes lors d'un duel au Chadjé, à Kal?
Messa Anna approuva du chef.
En clair, ça nous laisse ces artefacts enfouis dans des ruines ou oubliés au fond d'un grenier. Si vous comptez sur la chance pour en trouver un, ne vous gênez pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. À moins que l'un de vous sache où trouver une boîte de stase.
Une question non dépourvue d'ironie. Si les boîtes de stase avaient en principe dû résister à la dislocation du monde, elles devaient désormais reposer au fond d'un océan ou être ensevelies sous des montagnes. À part quelques noms et des légendes, il ne restait rien de l'âge où les élus avaient vu le jour. Grindal eut un sourire mielleux.
J'ai toujours pensé que tu aurais dû être professeur. Désolé, j'ai oublié.
Messa Anna se rembrunit. La trajectoire qui l'avait conduite au grand seigneur avait commencé lorsqu'on lui avait refusé un poste à l'université de Kol Amdan, des siècles auparavant. Pas assez douée pour la recherche, l'avait-on dit. En revanche, elle pouvait toujours enseigner. Eh bien, elle l'avait fait, jusqu'à ce qu'elle leur apprenne à tous une bonne leçon.
J'aimerais bien entendre ce qu'a dit le grand seigneur.
S'impatienta Semirage.
Moi aussi. Allons-nous tuer Altor?
S'apercevant qu'elle serrait à deux mains le devant de sa robe, Messa Anna le lâcha. Bizarre. En principe, elle ne se laissait jamais énerver.
Si tout va bien, dans 2 mois, peut-être 3, il sera en un endroit où je pourrai aisément l'atteindre. Et sans défense.
Où tu pourras aisément l'atteindre?
Répéta Grindal, perplexe.
Où est donc ta tanière? Aucune importance. Si simple soit-il, c'est le meilleur plan que j'ai entendu récemment.
Demandred continua à se taire, observant les 3 femmes. Non, pas les 3, seulement Semirage et Messa Anna. Et quand il parla enfin, à demi pour lui-même, ce fut à elle qu'il s'adressa.
Quand je pense à l'endroit que vous avez choisi, l'une comme l'autre, je me pose des questions. Que sait le grand seigneur? Et depuis quand? Quelle proportion de tous les récents événements fait partie de son plan originel?
Personne ne répondit.
Vous voulez savoir ce qu'il m'a dit? D'accord. Mais que ça reste entre nous, alors. Puisque Samael n'est pas venu, il n'en saura rien.
Idem pour les autres, vivants ou morts. La première partie du message est très simple. Laissez régner le Seigneur du Chaos. Ce sont les mots du Grand Seigneur.
Demandred eut une moue qui aurait pu ressembler à un sourire. Une première, songea Messahana, intriguée. Puis il leur fit part de la suite du message. Quand il eut fini, Messahana s'avisa qu'elle tremblait, sans pouvoir déterminer si c'était d'excitation ou de peur. Ça pouvait fonctionner et combler toutes leurs attentes. Mais pour ça, il fallait de la chance, et elle n'avait jamais été très à l'aise avec cette notion. Le flambeur, c'était Demandred. Et il avait raison sur un point. Loustérin s'était fabriqué sa propre chance, à la manière dont le trésor d'une nation frappe de la monnaie. Et selon elle, Randaltor faisait exactement pareil. Sauf si le grand seigneur avait un plan en plus de celui qu'il avait exposé à Demandred. Et cette possibilité était plus terrifiante que toutes les autres. Le miroir au cadre doré renvoyait l'image de la pièce, la troublante mosaïque sur les murs, les meubles rehaussés d'or, les autres miroirs et les tapisseries. La pièce d'un palais, mais sans fenêtre ni porte. Le miroir reflétait aussi l'image d'une femme en robe rouge sombre, qui faisait rageusement les 100 pas, son beau visage tordu par un mélange de fureur et d'incrédulité. Oui, d'incrédulité. Ce miroir reflétait aussi le visage de l'homme, et ça l'intéressait beaucoup plus que tout ce qui concernait la femme. Pour la centième fois, il ne put s'empêcher de toucher son nez et sa bouche, afin de s'assurer qu'ils étaient bien réels. Son visage n'était pas jeune, mais bien moins vieux, cependant, qu'au moment où il s'était réveillé pour la première fois du long sommeil, ce trou noir peuplé d'interminables cauchemars. Des traits ordinaires. Depuis toujours, il détestait être banal. Entendant sortir de sa gorge un ricanement de dément, il le réprima. Il n'était pas fou. Malgré tout, il n'en était pas là. Durant sa seconde période de sommeil, plus horrible encore que la première, on lui avait donné un nom, avant qu'il se réveille dans ce corps et avec ce visage. Osangar. Un nom donné par une voix qu'il connaissait et à laquelle il n'aurait pas osé désobéir. Son ancien nom, affecté avec dédain et accepté fièrement, était à jamais perdu. La voix de son maître en avait décidé ainsi. La femme, elle, se nommait Arangar, et son ancienne identité n'existait plus. Un choix intéressant, ces noms. Un Osangar et un Arangar étaient les poignards qu'on tenait dans la main gauche et la main droite, dans une forme de duel qui avait été fugacement populaire lors de la longue période de préparation séparant le jour où la brèche avait été fourrée du véritable début de la guerre du pouvoir. Les souvenirs d'Osangar étaient lacunaires, car il avait perdu tant de choses durant le long sommeil puis le court, mais il se souvenait très bien de ça. Une popularité fugace, parce que les deux duellistes mouraient pratiquement chaque fois. Logique lorsqu'on s'affrontait avec des lames enduites d'un poison lent. Une silhouette passa rapidement dans le miroir. Osangar se retourna sans précipitation inutile. Il devait se rappeler qui il était et faire en sorte que les autres ne l'oublient pas. Alors qu'il n'y avait toujours pas de porte, un myrdral venait d'entrer dans la pièce. Rien d'extraordinaire en ces lieux. Cela dit, le demi-humain était plus grand que tous ceux qu'Osangar avait vus. Il prit son temps, laissant le myrdral mijoter dans son jus, mais Arangar brisa le silence avant qu'il se soit décidé à parler.
« Pourquoi m'a-t-on fait ça? Qu'est-ce que je fige dans ce corps? Pourquoi tout ça ?»
La dernière phrase s'acheva quasiment sur un cri. Osangar aurait juré que les lèvres livides de Myrdraal venaient de dessiner un sourire. Mais c'était impossible, ici ou n'importe où ailleurs. Alors que même les Trollocs avaient le sens de l'humour, certes bestial et violent, les demi-humains en étaient totalement dépourvus.
« Tous les deux, vous avez reçu ce qu'on pouvait trouver de mieux dans les terres frontalières. »
Une voix sifflante, qui évoquait une vipère rampant dans une herbe desséchée.
« C'est un bon corps, fort et en pleine santé, bien meilleur que l'autre possibilité. »
Les deux assertions étaient exactes. Ce corps connu par renier une danseuse de Dayen de l'ancien temps était d'une grande qualité, et le visage au teint ivoire et aux yeux verts, encadré de cheveux noirs, allait parfaitement avec. Et de toute façon, n'importe quoi aurait mieux valu que l'autre possibilité. Arangar parut ne pas voir les choses de cette façon. Son beau visage brûlant de rage, elle semblait sur le point de prendre un risque insensé. Osangar l'aurait même juré, car il y avait toujours eu un problème avec elle à ce niveau-là. En comparaison, Lanfear aurait pu passer pour un parangon de prudence. Osangar tenta de saisir le Saïdine.
«
Canaliser ici risquait d'être dangereux, mais moins que de laisser Arangar faire quelque chose de vraiment stupide. Hélas, il tenta de saisir le Saïdin et ne trouva rien. Pas à cause d'un bouclier. Ça, il l'aurait senti, et il aurait fini par trouver un moyen de le contourner ou de le briser, à condition que la puissance soit raisonnable. Non, il avait l'impression d'être isolé du pouvoir. Choqué, il s'en pétrifia sur place. Arangar ne réagit pas comme lui. Alors qu'elle venait sans doute de découvrir la même chose que lui, ça ne l'affecta pas du tout d'une manière identique. Avec un feulement de félin, elle se jeta sur le Myrdraal, toute griffe dehors. Une attaque désespérée, évidemment. Sans même bouger, le demi-humain prit la femme par la gorge et leva le bras jusqu'à ce que ses talons décollent du sol. Alors que son feulement devenait un gargouillis, Arangar saisit à deux mains le poignet du Myrdraal. Serrant toujours le cou de l'imprudente, celui-ci tourna son visage sans yeux vers Ossangar.
« Vous n'avez pas été amputé, mais vous ne canaliserez pas tant qu'on ne vous aura pas donné l'autorisation, et vous ne me frapperez jamais. Je suis Shaidar Aran. »
Ossangar voulut déglutir, mais sa bouche semblait remplie de poussière. À l'évidence, cette créature n'avait aucun rapport avec ce qu'on lui avait fait, quoi que ce fût. Si les Myrdraal étaient dotés de pouvoir, ça n'allait pas jusque-là. Pourtant, celui-là savait ce qui s'était passé. Ossangar n'avait jamais aimé les demi-humains. Ayant participé à la création des Trollocs, en hybridant le bétail humain et animal, il restait fier de son travail, qui nécessitait de grandes compétences. Mais les Myrdraal, résultat hasardeux et rare de sombres manipulations, l'avaient toujours mis mal à l'aise, dans le meilleur des cas. Shaidar Aran regarda de nouveau la proie qu'il serrait dans son poing. Le visage rouge vif, la femme ne battait presque plus des jambes.
« Tu t'adapteras, »
reprit le Myrdraal, s'adressant à Arangar.
« Le corps se plie à l'âme, mais l'esprit, lui, se plie au corps. D'ailleurs, tu es déjà en train de t'adapter. Bientôt, il te semblera que tu n'as jamais eu d'autre corps. Bien entendu, tu peux aussi refuser ton sort. Dans ce cas, une autre femme prendra ta place et tu seras livré à mes frères, toujours incapable de canaliser, évidemment. »
Les lèvres du demi-humain se plissèrent bizarrement une nouvelle fois.
« Dans les terres frontalières, mes frères manquent de divertissement. »«
Elle ne peut pas parler !» dit Ossangar. « Tu es en train de la tuer. Ignores-tu qui nous sommes ? Demi-humain, lâche-la ! Obéis-moi !»
Car enfin, cette créature devait se plier à la volonté d'un élu. Le Myrdraal observa pourtant un long moment le visage presque bleu d'Arangar, avant de la reposer sur le sol et de desserrer sa prise.
« J'obéis au grand seigneur et à personne d'autre. »
Toujours cramponné au poignet du demi-humain, Arangar toussa et faillit s'étrangler avec l'air qu'elle aspirait. Si son bourreau l'avait lâchée, elle serait tombée comme une masse.
« Te soumettras-tu à la volonté du grand seigneur ?»
Une simple question, sans rien d'une exigence, et pourtant…
« Je… oui… »
souffla Arangar. Quand Shaidar Aran l'eut lâché, elle tituba et se massa la gorge. Ossangar fit mine de venir à son aide, mais elle le foudroya du regard, puis le menaça du poing avant qu'il ait pu la toucher. Les mains levées, il recula. Voilà une hostilité dont il n'avait aucun besoin. Mais c'était un bon corps, et une excellente plaisanterie. Alors qu'il s'était toujours engorgé de son sens de l'humour, cette blague-là était extraordinaire.
« N'éprouvez-vous aucune gratitude ?»
demanda le Myrdraal.
« Tous les deux, vous étiez morts, et vous voilà de nouveau vivants. Pensez à Ravin, dont l'âme est au-delà de tout salut, au-delà même du temps. Vous avez une chance de servir de nouveau le grand seigneur et de vous faire pardonner vos erreurs. »
Ossangar s'empressa de déclarer qu'il débordait de reconnaissance, brûlait d'envie de servir et désirait plus que tout être absous de ses fautes. Ravin mort ? Que s'était-il passé ? Au fond, ça n'avait aucune importance. Un élu de moins, ça ferait plus de pouvoir pour les survivants quand le grand seigneur serait libre. Bien sûr, il était humiliant de s'abaisser devant une créature en un sens tout autant née de lui que les Trollocs, mais Ossangar gardait un souvenir cuisant de la mort. Pour lui échapper, il était prêt à se prosterner devant un ver de terre. Malgré la colère qui brillait encore dans ses yeux, Arangar n'avait pas tardé à comprendre. Elle aussi, elle se souvenait.
« Il est temps pour vous de retourner dans le monde afin de servir le grand seigneur, »
dit Shaidar Aran.
« À part lui et moi, nul ne sait que vous êtes vivant. Si vous réussissez, vous aurez la vie éternelle et dominerez tous vos semblables. En cas d'échec, mais vous n'échouerez pas, c'est sûr. »
Le demi-humain sourit bel et bien. Le rictus même de la mort.